Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans les incorrectibles sur Sud Radio. Nous sommes toujours confinés, c'est pourquoi cette semaine encore, je serai dans un instant direct en tête à tête, mais à distance avec notre invité pour parler sans aucun tabou de l'actualité. Une actualité encore essentiellement, bien sûr, marquée par cette pandémie du Covid-19 et une gestion par les pouvoirs publics qui suscite chaque semaine toujours plus de questions. Merci à vous d'être chaque dimanche très nombreux à nous suivre, que ce soit en live sur Facebook ou en replay vidéo depuis la playlist des incorrectibles. C'est sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Allez, nous sommes ensemble pour une heure jusqu'à 14h. C'est parti pour les incorrectibles.
Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo.
Alors, en ce 41e jour de confinement, notre invitée est une jeune femme engagée aux convictions bien trempées. Elle fut à l'Assemblée nationale la plus jeune députée de l'histoire politique française, dont elle s'est retirée après l'élection présidentielle de 2017. Elle est aujourd'hui directrice générale de l'ICEP, l'Institut de sciences sociales, économiques et politiques de Lyon, qui aspire à former les élites de demain. On en parlera d'ailleurs dans quelques instants, mais elle est surtout avec nous pendant une heure pour nous apporter son regard sur l'actualité si sensible du moment. Marion Maréchal, bonjour.
Bonjour Éric Morillo.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, on va tout d'abord commencer par cette actualité de vendredi, hein, puisque c'est celle du début du Ramadan. Confinement oblige le Conseil français du culte musulman à appeler les musulmans à rester prier chez eux et à ne pas se rassembler. Les lieux de culte sont de toute façon fermés, mais beaucoup craignent malgré tout des rassemblements. Et à Marseille, il y a eu un début de polémique. D'ailleurs, le préfet Emmanuel Barbe a dû s'en expliquer. C'était la semaine dernière, après ses propos tenus dans le magazine Le Point. Alors, je vous les cite. Certes, nous ne pourrons pas éviter que les gens se rendent visite les uns les autres dans une même barre d'immeuble, mais là, il s'agit d'une question de responsabilité individuelle. Il me semble que la période du Ramadan permet encore plus que d'habitude de veiller les uns sur les autres. En revanche, les soirées festives hors les murs, comme il y en a tous les ans à cette période, seront interdites. Alors, la préfecture, je le disais devant un début de polémique, a tenu à confirmer que les règles seraient bien les mêmes pour tous. Une première réaction, Marion Maréchal, suite à ces propos.
Bah oui, mais en réalité, cette polémique sur le Ramadan rappelle la polémique que nous avons autour de la gestion des émeutes dans les cités. C'est-à-dire qu'officiellement, il n'y a pas de distinction faite entre les territoires sur la dureté de la réponse finalement policière sur le respect des règles de confinement. Et on voit bien que dans les consignes officieuses, évidemment, qui ne sont pas assumées publiquement par le gouvernement, eh bien, il est dit aux forces de l'ordre ou de ne pas aller à la confrontation ou de faire preuve de discernement, je cite, pour ne pas provoquer, hein, puisque c'est le mot d'ordre systématiquement, c'est l'ordre républicain dans ce pays, vous savez, c'est de donner une amende à une petite mamie qui va faire coucou à son mari à travers la vitre de l'EHPAD, ou aller sanctionner le jogger qui est tout seul sur la plage. Mais en revanche, c'est de laisser dans ces cités prospérer à la fois le chaos, les trafics, le non-respect du confinement, mais aussi, et on le verra, évidemment, les rassemblements en raison du Ramadan.
Mais vous dites, on le verra, vous craignez des débordements si la police notamment procède à des sanctions contre les musulmans qui ne respecteraient pas le confinement en raison justement de ce Ramadan ?
Non, mais le problème, si vous voulez, c'est que ça m'a fait penser à une chose, on en parlera peut-être après, mais sur la déclaration de Christophe Castaner, donc le ministre de l'Intérieur, on se souvient soudainement que Emmanuel Macron, en réalité, n'a pas tué le Parti socialiste, mais il l'a absorbé et reconfiguré, si je puis dire. Je regardais la déclaration donc de cet intransigeant ministre de l'Intérieur face aux Gilets jaunes dernièrement, qui disait, je cite, parce que je pense que les mots sont parlants, ce sont des tensions qui ne sont pas d'un niveau de gravité exceptionnel.
Oui, il a relativisé.
On parle quand même de guet-apens sur les forces de l'ordre, d'attaques sur les pompiers, de tirs de mortiers d'artifice, d'incendies de postes de police. Je rappelle quand même les faits, parce que personne n'en parle d'ailleurs dans la presse, ou très peu, à part peut-être à Sud Radio, mais c'est quand même assez rare. Il ajoute qu'il y a la dureté du confinement pour ces jeunes gens. Et il finit en disant « je pense aussi à cette galère dans laquelle ils sont, à cette pauvreté ». Voilà, donc vous avez là la quintessence finalement de l'état d'esprit de ce gouvernement et en particulier son ministre de l'Intérieur, et je pense qu'elle est partagée d'ailleurs par la ministre de la Justice, qui est elle aussi ancienne socialiste, il faut quand même le rappeler, à savoir une forme de compassion affichée d'une part pour ces émeutiers et ces délinquants, compassion d'ailleurs qui ne se pratique pas, il faut le dire, à l'égard de la population qui habite ces cités, immigrés ou pas d'ailleurs, parce que ces personnes en l'occurrence se font brûler leur voiture, se font détruire leurs abribus, ne peuvent plus recevoir les soins d'urgence parce que dans certaines cités, SOS Médecins ne se déplacent plus parce qu'ils sont agressés, voient des incendies prospérer sans que les pompiers ne puissent y accéder. Enfin bref, vivent au milieu du trafic de drogue. Donc c'est extraordinaire de voir que la compassion s'exerce à l'égard des délinquants, mais elle ne s'exerce même pas vis-à-vis de la population qui vit sur place.
Alors justement, vous en parliez donc de ces banlieues, hein, cet autre sujet d'actualité brûlant, hein, l'embrasement dans certaines banlieues qui a commencé, c'était d'ailleurs le même jour justement de la prise de parole de ce préfet Emmanuel Barbe, c'était dans la banlieue de Villeneuve-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine, à la suite d'un contrôle d'un motard qui roulait sans casque sur une motocross non homologuée. Il s'est fracturé la jambe après avoir heurté un véhicule de police. L'homme était un délinquant multirécidiviste, mais il n'en a pas fallu plus pour que circule sur les réseaux sociaux des rumeurs de bavure. Des témoins de la scène affirment en effet que les policiers auraient délibérément ouvert leurs portières pour faire chuter l'individu en question. Une enquête a été ouverte par le parquet de Nanterre. Depuis, de nombreuses cités d'Île-de-France, mais aussi de Lille ou encore de Toulouse, sont le théâtre de violences commises envers les forces de l'ordre ou les pompiers, vous le disiez. Les agents de police rapportent fréquemment des cas de guet-apens. Ce malaise des banlieues, Marion Maréchal, il ne fait que ressurgir avec le confinement. Est-ce qu'il était évitable selon vous ?
Alors, en réalité, il était aussi sous contrôle judiciaire, d'ailleurs, si je ne m'abuse. Donc, il cochait toutes les cases, hein, mais comme très souvent, parce qu'on parle beaucoup de bavures policières, en l'occurrence, ça n'est pas le cas, mais la réalité, c'est qu'on voit beaucoup plus de policiers et de gendarmes agressés, insultés, que de bavures policières. C'est quand même important de le rappeler. La réalité, c'est que notre ministre et notre gouvernement est dans une stratégie qui est claire, qu'il assume d'ailleurs, de dire il ne faut surtout pas embraser les banlieues. Voilà. Donc au prétexte de ne pas ajouter des problèmes aux problèmes, on donne des ordres de ne pas aller à la confrontation, on refuse d'arrêter ces délinquants. Je rappelle quand même que dans chacune de ces cités, il s'agit de quelques centaines de personnes. Donc en réalité, on n'est pas face à des mouvements de population massifs. Ce sont quelques centaines de délinquants et de criminels qui mettent à feu, si je puis dire, l'ensemble de ces quartiers. On refuse d'aller à l'affrontement. Le problème, c'est que ça n'est pas propre à cette situation de pandémie. Ça fait des décennies qu'au prétexte de ne pas embraser les banlieues, on refuse d'intervenir. Et il y a toujours une bonne excuse pour ne pas intervenir. Où il y a des élections, où il y a les gilets jaunes.
Oui, j'allais vous dire pourquoi une si faible réaction, d'après vous.
Où il y a une réforme, exactement. Et la réalité, c'est qu'ils ont peur. Ils ont peur de devoir employer des moyens qu'ils n'ont pas eu les scrupules pourtant d'utiliser face aux gilets jaunes. Moi, je pose la question, où sont les moyens qui ont été déployés face aux gilets jaunes? Où sont les unités de gendarmerie qu'on a vues aller face aux gilets jaunes? Où sont les blindés? Où sont les LBD? Où sont les grandes déclarations du préfet Lallemand, qui d'ailleurs est aussi en charge du 93, face à ces métiers-là. Moi, je pense que ça relève vraiment d'une idéologie. Voilà, on considère qu'aujourd'hui, le jeune immigré de cité, c'est la nouvelle victime de la société. Et donc, il ne faut surtout pas y toucher. Rappelons aussi quand même que c'est un électorat non négligeable. Hein. Je pense qu'il y a malheureusement de mauvaises pensées électoralistes derrière, beaucoup de lâcheté aussi certainement. Et puis, des messages qui ne sont pas encourageants, si je peux dire, pour remettre l'ordre. Parce que quand vous avez une ministre de la Justice qui, au prétexte, une fois plus, du coronavirus, libère 10 000 prisonniers, enfin, c'est parfaitement inédit, dont 130 radicalisés. Imaginez bien que le message qui est reçu par ces jeunes gens, c'est bien que, de toute façon, l'impunité est totale et que, quand bien même, après moult récidives, vous finiriez en prison, de toute façon, vous n'irez pas au bout de votre peine et peut-être même aurez-vous des libérations anticipées. Voilà. Donc, il y a une espèce d'ambiance générale qui contribue à donner un sentiment d'impunité totale et qui, à mon avis, ne fait que reculer pour mieux sauter, parce que la réalité, c'est que cet embrasement des banlieues, il aura de toute façon lieu de manière régulière tant que le problème...
Ah, vous croyez ça, oui.
Mais évidemment, je veux dire, c'est tout le monde sait, quand on parle aux policiers qui interviennent dans ces cités, que c'est un brasier permanent. Et la réalité, c'est que cette soi-disant bavure policière est un prétexte. Enfin, ce n'aurait pas été ça, ça aurait été autre chose de toute façon. Donc, le fait de vouloir systématiquement reculer, c'est pour moi mieux sauter, d'autant plus que tout le monde sait qu'aujourd'hui, les banlieues sont à cran parce que beaucoup de ces cités vivent d'une économie parallèle et en particulier...
Oui, parce que, venons-y, excusez-moi de vous interrompre quand même, mais on sait très bien que la police n'a plus le droit d'entrer dans certaines cités, qu'elle laisse agir les délinquants au nom d'une certaine paix sociale. Or, aujourd'hui, ces individus qui vivent souvent de trafic, notamment de drogue, sont mis à mal par le confinement. Alors justement, quel est votre avis là-dessus ?
Bah, il est évident que la question du trafic de drogue joue et que la présence policière, de manière générale, est un frein à ce trafic. C'est pour ça, d'ailleurs, que les policiers sont systématiquement attaqués ou agressés dans certaines cités. C'est parce que quand il y a de la police, évidemment, les clients ont plus de difficultés à venir. Donc, c'est vrai maintenant, mais c'est encore davantage vrai aujourd'hui pour la simple et bonne raison que, un, l'approvisionnement en drogue est de plus en plus compliqué, notamment en Ile-de-France, et que les clients sont de plus en plus rares. Donc, évidemment, si vous ajoutez à cela une présence policière qui est censée être là pour faire respecter le confinement, ça aggrave la situation. Mais le problème, si vous voulez, c'est que tous ceux qui tombent à bras raccourcis sur l'état policier feraient bien de regarder ce qu'il advient lorsque ce n'est pas l'ordre républicain qui prévaut dans ces banlieues, mais l'ordre des caïds. Il y a encore une vidéo absolument insoutenable il y a quelques jours de règlement de compte entre des trafiquants de drogue où ils se sautent sur la tête à pieds joints à 10 sur une victime. Voilà, donc faut pas oublier que derrière cela, il n'y a pas seulement des dégradations, ce qui est déjà insupportable, parce que c'est quand même nous, au final, qui finissons par payer ces dégradations, mais par ailleurs, il y a des blessés, parfois des blessés extrêmement graves, et surtout, moi, je vois une espèce de prise d'otage de la population sur place, et je trouve que je suis, enfin, je sais pas, je... Quand j'écoutais Christophe Castaner, j'avais l'impression d'être face à... Si on devait faire un Gorafi du laxisme, je pense qu'on aurait pris... On n'aurait pas fait autrement que cet ensemble de déclarations. Donc voilà, ne pas oublier qu'Emmanuel Macron, c'est aussi tout ce socialisme sur le plan des idées de la société, sur le plan sociétal, sur le plan de la justice. Et je crains que les Français ne payent très durement aussi cette décision de Madame Belloubet de libérer ses prisonniers, parce qu'il va y avoir des conséquences. Il y a déjà des récidives qui ont été constatées et il y a dans le passé des exemples, je pense notamment à un décret qui a été pris en 1981, qui était un décret de grâce et d'amnistie, qui a libéré de manière anticipée 5000 prisonniers. Eh bien, la conséquence, c'est qu'il y a eu 20% d'augmentation du taux de criminalité dans l'année qui a suivi. Voilà, donc dans un pays où la sécurité est déjà largement insoutenable, je crains que cette décision ne soit encore, aggrave encore la situation.
Alors voilà pour le constat, mais quelle réponse on peut donner à ce problème selon vous ? Est-ce qu'on aurait dû prendre des mesures spéciales ?
Bah, on aurait dû prendre les mesures qui ont été prises, j'y reviens, hein, mais lorsque il y a eu les débordements des gilets jaunes, il y a des unités spécialisées qui ont été mobilisées, il y a du matériel spécialisé qui a été mobilisé, il y a du renfort de forces de l'ordre qui sont venues d'autres territoires pour venir apporter leur soutien aux personnes en place. Là, on voit bien qu'il y a quelques unités de police qui sont totalement abandonnées, quelques unités de la BAC qui font comme elles peuvent, mais on est très loin du matériel. On voyait même des blindés, hein, si je ne m'abuse, sur les Champs-Élysées. Je veux dire, voilà, tout cela, c'est une question de volonté, une fois de plus. Ou alors, que les choses soient dites, si la France n'est pas capable de mettre au pas quelques centaines de personnes sur le territoire, quelques centaines d'émeutiers, dans ce cas-là, il faut nous le dire tout de suite, c'est qu'on est devenu un pays sous-développé. Mais un pays qui est la première armée européenne et l'un des systèmes de maintien de l'ordre les plus performants du monde, j'ai quand même du mal à le croire. Je pense que c'est un peu des politiques.
Marion Maréchal est notre invitée dans Les Incorrectibles jusqu'à 14h en direct sur Sud Radio et bien sûr sur les réseaux sociaux. Restez avec nous, on revient dans un instant.
Sud Radio, Les Incorrectibles. Éric Morillo.
De retour dans Les Incorrectibles, nous sommes en direct jusqu'à 14h confinés, donc à distance avec notre invitée, une prise de parole très attendue puisqu'elle s'exprime très rarement dans les médias, c'est Marion Maréchal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on parlait il y a un instant, bien sûr, de ce début de Ramadan, de ces banlieues, de ces problèmes liés au confinement. Ça nous amène, bien sûr, à parler plus particulièrement de la gestion de cette crise sanitaire qui nous frappe tous, bien sûr, de plein fouet en ce moment. Et on va revenir donc sur la façon dont elle a été gérée par le gouvernement Macron. Beaucoup de questions sont posées sur les réseaux sociaux à ce sujet. Alors, nous sommes confinés depuis près d'un mois et demi avec un possible début de confinement annoncé pour le 11 mai prochain. Ce sera mardi que le Premier ministre devrait nous donner les détails de ce déconfinement. À l'heure actuelle, la question des masques reste toujours sujet à interrogation et polémique sur leur date de disponibilité pour le grand public. Seront-ils ou non gratuits? Comment s'en procurer? Leur port sera-t-il obligatoire? Sont-ils réellement efficaces? Quant au test, lors de son dernier discours, le président de la République a annoncé que seules les personnes présentant des symptômes seraient testées, alors qu'on sait que les sujets asymptomatiques peuvent être aussi porteurs. Quel est votre regard, Marion Maréchal, sur la façon dont est gérée cette crise par notre gouvernement ? Gérard Larcher, le président du Sénat, s'exprimait dans le journal du dimanche aujourd'hui. Il dénonçait des prises de parole incessantes, contradictoires et des approximations. Vous partagez son point de vue ?
Alors, ce qui est assez amusant sur cette histoire de masque, c'est que finalement le gouvernement se félicite d'arriver le 11 mai au point où il aurait dû être au début de cette crise, c'est-à-dire être en capacité de fournir des masques, exactement comme pour les tests d'ailleurs, aux personnes qui le souhaitent, ou en tout cas aux personnes exposées au public, que ce soit dans les services publics, dans les hôpitaux, dans les EHPAD évidemment, et j'en passe, et même aux caissières, entre autres choses. Donc c'est vrai que c'est déjà assez désespérant, la communication est chaotique. Je ne vais pas revenir, si vous voulez, sur l'ensemble des contradictions, incohérences, changements de fusil d'épaule, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus, mais ce qui est intéressant, si on prend un peu de recul, c'est ce que ça dit finalement, depuis longtemps déjà d'ailleurs, de la mentalité de nos politiques et de leur rapport au gouvernement. Dire quoi qu'on veuille en penser, ces progressistes, puisqu'ils se qualifient de la sorte, sont des gens qui pensent que l'histoire, finalement, est une forme de progrès permanent. Ils ont oublié que l'histoire, c'était avant tout fait de chocs, de ruptures, de chutes, de crises, et que le premier rôle du gouvernant, ça n'était pas de s'occuper de notre bonheur, si je puis dire, mais c'était de faire en sorte que la société soit équipée pour pouvoir être résiliente, c'est-à-dire affronter efficacement une crise et faire en sorte que cette crise bien ne lui soit pas fatale. C'est vrai que de ce point de vue-là, le progressisme, c'est une doctrine qui marche quand tout va bien, d'une certaine manière. Donc c'est vrai qu'il y a une mentalité de gestion à la petite semaine qui a conduit d'ailleurs à liquider les stocks de masques, ça a été dit sous François Hollande, hein, quand je rappelle aussi Emmanuel Macron était ministre de l'économie de François Hollande, donc et ça date, on va dire, d'une mentalité bien plus lointaine que celle-ci. Et puis ça révèle aussi les failles, selon moi, d'une manière de penser le commerce mondial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'une des grandes difficultés qu'on a avec l'approvisionnement en masques, c'est que les Français se rendent compte que nous ne disposons plus de l'industrie de base, de l'industrie stratégique de base qui permette notamment de pouvoir fournir les Français sur un certain nombre de matériel essentiel. Et là, on voit le résultat d'une politique économique qui a été mise en place depuis des années, et bien avant, disons-le, Emmanuel Macron, mais dont il est le continuateur, qui consiste à vouloir diviser le travail à travers les nations du monde. Je m'explique, c'est-à-dire que chaque nation serait spécialisée sur des secteurs économiques et ça permettrait de créer une sorte de complémentarité entre les nations, c'est-à-dire que la France serait une économie de tourisme, une économie de services à haute valeur ajoutée, ce serait la start-up nation, et puis bah, pour tout ce qui est industrie, usine, on laisserait ça aux pays émergents et notamment à la Chine. On voit bien que ce raisonnement est extrêmement dangereux, puisque quand une nation refuse à diversifier son économie et notamment à maintenir une industrie stratégique de base, eh bien elle se trouve totalement dépendante de l'étranger. Et je pose la question, si la Chine n'avait pas réussi à endiguer cette épidémie, que serait-il advenu de l'approvisionnement en masques pour la France ? Nous aurions été dans une situation absolument dramatique. Donc c'est vrai que ça interroge bien au-delà, on va dire, de la gestion et du cafouillage quotidien sur vraiment un logiciel politique qui est celui de nos élites politiques et qui, j'espère, sera remis en cause dans les années à venir.
Mais vous pensez qu'on est véritablement face à un scandale sanitaire ? Beaucoup demandent des comptes à l'issue de cette pandémie au pouvoir exécutif. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui demanderaient des comptes ?
De toute façon, le principe d'une démocratie, c'est que régulièrement, déjà rien qu'à travers les élections, on est censé demander des comptes à nos gouvernants. Donc il est certain qu'en tout cas, c'est l'occasion de faire un bilan un peu des politiques qui ont été menées, bien sûr de la gestion au quotidien. Enfin, on a vu des choses absolument invraisemblables et il faudra interroger aussi la technostructure, j'ai envie de dire la bureaucratie d'État dans ce dispositif qui n'est pas totalement exempte de responsabilité, je pense.
Oui, puisque justement, alors j'en profite, puisque vous parlez de cette technocratie, le magazine Challenge a révélé que l'Agence Santé publique France avait été avertie dès 2018 du nombre insuffisant de masques stockés en prévision d'une pandémie comme le Covid-19 dans une note adressée au directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, une note qui aurait été réclamée par le ministère lui-même. Le gouvernement, donc Macron, a beau tenter d'imputer la pénurie de masques aux décisions des précédents gouvernements. On sait que le ministère de la Santé, dirigé alors par Agnès Buzyn, aurait donc été au courant donc de l'état des stocks dès 2018. Est-ce que selon vous, Marion Maréchal, on a fait passer l'argent avant la santé une fois encore ?
Bah vraisemblablement. En tout cas, on a sacrifié, réduit des dépenses là où elles n'auraient pas dû être réduites, avec des conséquences d'ailleurs économiques importantes, parce qu'il faut rappeler que cette capacité à produire des masques en France, nous l'avions. Je pense notamment…
Oui, une usine de plein terre.
Beaucoup d'articles assez symboliques, j'ai envie de dire, mais ça n'est pas anecdotique, sur cette société de plein terre dans les Côtes d'Armor, si je ne m'abuse, qui produisait en 2008 200 millions de masques par an. et qui a été tué, disons-le, par deux choses. Un, l'arrêt de la commande d'État dans production de masques, et puis le rachat par une entreprise américaine qui a fini par délocaliser en Tunisie, notamment aussi du fait d'ailleurs de l'arrêt de cette commande. Donc on voit bien qu'il y a une... Et là, pour le coup, dans l'indifférence totale des pouvoirs publics. Donc on voit bien que depuis des années, il y a eu un abandon progressif finalement de cette nation industrielle par, c'est vrai, manque d'anticipation. Le problème, c'est aujourd'hui, c'est qu'on a un État qui, une fois de plus, n'est pas un État stratège qui veut se concentrer sur l'essentiel, mais qui est un État qui se noie dans, en effet, la technobureaucratie, si je puis dire ça comme ça, qui se noie dans des dépenses d'achat de la paix sociale, dans des dépenses... oui, c'est ça, de sociétal, si je puis dire, et qui du coup ne répond plus à ses missions essentielles.
Et c'est une raison de plus pour vous de douter de la transparence du gouvernement. Personnellement, est-ce que vous avez confiance en nos dirigeants, Marion Maréchal?
Bah, j'aurais du mal à avoir confiance, je pense, qu'en n'importe quel citoyen français, à partir du moment où le lundi c'est bleu, le mardi c'est rouge, le mercredi c'est violet, que sur des sujets extrêmement précis, on pense aux masques, on pense aux tests, on a eu des discours parfaitement contradictoires, qu'on a eu des mensonges, hein, même en expliquant que les masques ne servaient à rien, voilà, qu'il n'y a pas eu une transparence réelle. Donc à partir de là, non, je ne veux pas dire que j'ai confiance en ces hommes, et d'ailleurs je ne crois pas, c'est un peu à mon avis une attention, en tout cas j'ai envie d'alerter peut-être les Français là-dessus. Il y a beaucoup de discours qui expliquent qu'avec cette crise, ça y est, nos gouvernants vont ouvrir les yeux, il y aura le monde d'après, le hashtag plus jamais ça, et que le monde de demain sera un monde qui aura tiré les leçons d'eux. Je ne suis pas convaincue par cela. Déjà parce que je le vois à travers les actes de nos gouvernants, on en parlera peut-être, mais les orientations européennes d'Emmanuel Macron,
on
en a parlé en début d'émission, mais l'attitude à la fois de la justice et du ministère de l'Intérieur, mais même des déclarations, comme je pense notamment à un député LREM très récente, qui expliquait que le localisme, donc le fait de vouloir avoir une économie en circuit court relocalisée en France, c'était du populisme. Que la question, ça n'était pas la relocalisation de notre économie, mais la diversification des sources d'approvisionnement. Comprenez, c'est pas grave si l'industrie n'est pas en France. Ce qui compte, c'est qu'on puisse se fournir auprès de différents pays, pas seulement la Chine, mais aussi l'Inde. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a plein de signaux faibles comme ça, derrière évidemment toutes les grandes déclarations tonitruantes des uns et des autres. Mais je rappelle qu'Emmanuel Macron, c'est un homme qui a été capable d'organiser un grand débat après les Gilets jaunes qui a coûté des millions d'euros, en bras de manche, en faisant 6 heures de débat devant le public choisi, dont il n'est ressorti absolument rien. Voilà. Donc c'est vrai que je porte l'attention là-dessus. Je ne crois pas qu'on fera le nouveau monde avec les hommes de l'ancien monde.
Alors, je le disais en introduction, vous dirigez une école de sciences économiques. Alors, quelle serait justement, selon vous, Marion Maréchal, la politique à adopter, notamment pour les hôpitaux? Comment gérer ce budget de santé en équilibrant à la fois l'économie et la sécurité sanitaire des Français? C'est pas facile, et c'est vrai que c'est un peu étonnant de voir que la France consacre 11% de son PIB à la santé, à le taux de prélèvement le plus élevé de l'OCDE. Où est-ce que va l'argent, selon vous?
Bah, c'est ça qui est surprenant, et d'ailleurs ça ne tient pas qu'à l'hôpital, parce qu'on le voit sur la justice notamment, on le voit sur la police, et on le voit sur un certain nombre de secteurs régaliens, même l'armée qui est sous-équipée. C'est-à-dire qu'avec, comme vous venez de le rappeler, le taux de prélèvement le plus élevé de l'OCDE, l'État n'assume plus ses fonctions régaliennes. Alors c'est vrai, est-ce que c'est seulement une question de montant d'argent? Parce qu'il est vrai qu'au lendemain de la crise, et légitimement, les Français et même les Européens demanderont des liquidités, demanderont de l'argent. En premier lieu pour, on va dire, absorber le choc, mais même de manière générale. Et c'est vrai que la France, il faut quand même le savoir, consacre 11%, un peu plus, même 11,2% je crois, de son PIB à la question de la santé. Alors, plus que la moyenne européenne, même si c'est vrai que le périmètre, faut manier ces notions avec précaution, parce que les périmètres ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais en revanche, ce qu'on constate aussi, c'est que 34% du personnel de ces hôpitaux n'est pas du personnel soignant. Et là, pour le coup, on est bien au-dessus de la moyenne européenne, puisque le deuxième pays derrière nous, c'est l'Italie, et eux, ils sont à 25%. Donc, c'est vrai qu'il y a probablement, au-delà des montants, une question de répartition de l'argent public. Et la tendance française, et ça, c'est dramatique, à avoir en effet des hôpitaux qui ne sont pas assez équipés, des fermetures d'établissements au détriment des territoires, des infirmières sous-payées, et en même temps une technostructure, notamment avec les agences régionales de santé, qui coûtent des fortunes, composés de hauts fonctionnaires qui ont montré leur incompétence et qui manifestement sont les premiers bénéficiaires de ce budget, ou en tout cas une partie non négligeable.
Marion Maréchal, vous restez avec nous. On continue de parler, bien évidemment, de la gestion de la crise du Covid-19 par le gouvernement et puis notamment de cet aspect économique. On est ensemble en direct sur Sud Radio jusqu'à 14h. On revient dans un instant.
Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo.
13h28, nous sommes en direct sur Sud Radio jusqu'à 14h dans Les Incorrectibles avec notre invitée cette semaine. Elle s'exprime que rarement dans les médias, donc nous sommes ravis de l'inviter. Il s'agit bien sûr de Marion Maréchal qui est à la tête de l'ICEP, une école de sciences économiques. Alors justement, ça nous amène à parler beaucoup aussi de cette gestion du Covid-19 sur un plan économique. On parlait il y a un instant donc de ces mesures annoncées par le gouvernement, notamment dans le plan d'urgence qui, on le rappelle, est passé à 110 milliards d'euros avec chômage partiel pour près de 9 millions de salariés et 732 000 entreprises, des primes pour les familles très modestes, un report du paiement des charges sociales et de leurs impôts pour les entreprises, un fonds de solidarité également pour les entreprises de moins de 10 salariés, les indépendants et les micro-entrepreneurs. Est-ce que vous pensez qu'on en fait suffisamment, Marion Maréchal? Est-ce qu'il faut en faire plus? Comment? Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez au pouvoir actuellement?
Alors déjà, il est vrai que la mise à disposition du chômage partiel de manière massive a été une bonne chose. Le fait de pouvoir débloquer ce montant qui n'est pas très important, mais c'est toujours ça, de 1500 euros de manière assez facile, disons-le, pour les entreprises, a été une bonne chose. En revanche, la chose sur laquelle il faudra être attentif, que ce soit sur les aides françaises ou sur les aides européennes, c'est qu'elles ne se limitent pas simplement à des garanties de prêt. Parce que
Contreparties également.
Quand vous, exactement,
les grands groupes.
Vous devez rembourser. Alors, quand vous êtes une société qui est déjà en grande difficulté, contracter des prêts supplémentaires, même garantis par l'État, comprenez bien que ça ne fait que reculer pour mieux sauter. Donc, déjà, il faudra être attentif à ça. Deux, s'assurer que cet argent ira bien à l'économie réelle, hein, parce qu'on se souvient en 2008 que ça n'a pas nécessairement été le cas. Donc, notamment, les établissements bancaires et même les assurances, d'ailleurs, jouent le jeu. Pour l'instant, un certain nombre de témoignages semblent montrer que ça n'est pas le cas, même s'il y a des déclarations d'intention et puis des souhaits du président, mais il faudrait que ça aille au-delà de cela. Et surtout, ce qui est intéressant, ça recoupe un peu le sujet qu'on évoquait juste avant, c'est que ces liquidités qui seront mises à disposition, notamment au niveau européen, ne soient pas utilisées seulement pour continuer à faire vivre cette espèce de machine d'État qui a montré un certain nombre de limites, que ce soit, une fois de plus, je le rappelle, pour l'achat de politique sociale, de politique sociétale, l'État-providence sans limite ou la technostructure, mais qui soit injectée véritablement au bénéfice du secteur productif stratégique. Et c'est vrai que c'est là où je suis un petit peu inquiète, si vous voulez, parce que j'entends beaucoup parler de relocalisation, mais on va se heurter à une difficulté. Ça veut dire que soit on relocalise par l'État, par le public, et là on se heurte aux règles de l'Union européenne, voilà, et je pense qu'on en reparlera, soit on relocalise par le privé, ça veut dire que voilà, on incite finalement par le privé ces entreprises à venir en France, mais alors dans ce cas-là, il va falloir qu'on se pose la question du taux de prélèvement sur nos sociétés, la question du temps de travail dans ce secteur de l'industrie en particulier qui n'est pas forcément adapté, la question du coût du travail. Donc, est-ce que le gouvernement va être capable, au-delà de dégager de l'argent, ce qui est évidemment essentiel à court terme, est-ce qu'il va être capable de porter les réformes nécessaires pour faire un vrai mouvement, ou même se poser la question de la décentralisation? Je veux dire, quand on voit aujourd'hui dans notre système de santé, le manque de souplesse, le manque d'agilité, le manque de réactivité, il vient aussi notamment d'une organisation d'État qui, selon moi, n'est pas assez près du terrain.
Est-ce que vous pensez qu'il faut en demander plus aux grandes entreprises françaises?
Ce qui est certain, en tout cas, c'est que, alors moi, j'ai vu d'un bon œil la déclaration de Bruno Le Maire expliquant qu'il fallait conditionner les aides d'État. Il a sûrement pris exemple sur le Danemark, d'ailleurs, de ce point de vue, qui avait fait cela avant. Conditionner les aides d'État aux grands groupes au fait qu'elles n'aient pas de filiales à l'étranger.
Paradis fiscaux.
Le problème, c'est quand je me suis un peu penchée sur la mesure et quand on lui a posé la question de savoir comment, est-ce qu'on allait inscrire ça dans la loi, la réponse, c'est que ces entreprises allaient faire des déclarations sur l'honneur. Voilà, bon, donc je vous laisse imaginer que c'est quand même une garantie qui n'est pas d'une certitude absolue. Donc je regarderai ça avec attention, mais une fois de plus, quelque chose me dit qu'on n'en verra pas forcément la couleur, d'autant plus qu'il y a encore quelques semaines, je m'en souviens, l'État s'était engagé à rentrer dans le capital des grands groupes qui étaient affaiblis, ce qui d'ailleurs n'est pas en soi une mauvaise chose, mais à l'époque, il ne parlait pas de contrepartie. Donc, il va falloir quand même y être attentif, parce qu'il est évident qu'on ne peut pas toucher l'aide d'État lorsqu'on a des filiales dans des paradis fiscaux. De la même manière, qu'il me paraîtrait surprenant qu'on puisse bénéficier d'une aide de l'État pour les personnes qui travaillent au noir, parce que j'ai entendu aussi cela.
Oui.
Alors, c'est pas très clair, mais enfin, en tout cas, ça a été interprété comme cela. Comment peut-on envoyer le message aujourd'hui qu'il est possible de travailler sans payer les taxes et impôts et en même temps de bénéficier en cas de crise des assurances qui s'y attachent? Bon, je trouverais ça surprenant, donc à regarder de près.
Vous qui êtes à la tête, je le disais, de l'ICEP et qui entendez former une nouvelle génération de dirigeants, quel regard vous avez sur ces grands patrons qui ont annoncé renoncer à une partie de leur salaire, comme Alexandre Bompard, patron de Carrefour dernièrement, mais aussi Bernard Arnault, le patron d'LVMH et Première Fortune de France? Vous voyez ça d'un bon œil?
Les grands patrons, c'est comme les citoyens lambda, d'une certaine manière. C'est comme les titulaires du RSA. Il y a des gens exemplaires, il y a des gens formidables, il y a des gens qui sont des patriotes. Voilà, bah c'est le cas d'exemple que
vous le trouvez exemplaire, Bernard Arnault, par exemple?
Et non, je pas, là, en l'occurrence, je trouve que ce qu'il a fait est bien. Je ne vais pas vous dire le contraire. Et il y a des gens qui se tiennent mal. Voilà, il y a des gens qui se tiennent mal et qui se versent des dividendes indécents.
Alors qui, par exemple?
Des salariés. Bah, on a vu dernièrement un certain nombre de sociétés qui n'ont pas renoncé à verser les dividendes malgré le fait que leurs salariés soient au chômage partiel. Donc c'est vrai que, de toute façon, la France a besoin de ces grands groupes, c'est une fierté nationale, en particulier dans le milieu du luxe où ils se sont mobilisés. Donc voilà, je salue ça, j'aimerais qu'il en soit pareil pour tous. Et en tout cas, je suis heureuse que cette crise soit aussi l'opportunité de voir que des sociétés sont réactives et que ces sociétés privées savent s'adapter justement pour apporter un soutien à notre nation. Donc c'est plutôt aussi un révélateur positif.
Alors, parlons un petit peu de votre actualité à vous. Justement, je le disais, vous êtes à la tête de l'ICEP, donc qui entend, je le rappelle encore une nouvelle fois, préparer cette nouvelle génération de dirigeants et d'élites. Pour vous, Marion Maréchal, les élites actuelles, elles sont déconnectées de la réalité?
C'est vrai que lorsque j'ai cofondé l'ICEP avec l'équipe aujourd'hui qui est en place, on avait un peu anticipé, si je peux dire, le problème, puisqu'on avait expliqué que l'élite dirigeante n'était pas capable de faire en sorte que la France puisse affronter efficacement les défis du 21e siècle. Moi, ce que je reproche, si vous voulez, beaucoup à cette élite, et je crois que ça tient en effet beaucoup au parcours de formation qui sont les leurs, hein, et qui sont souvent les mêmes, d'ailleurs, disons-le, hein, issus souvent des grandes mêmes écoles, c'est une forme de refus du débat, une forme de prêt-à-penser, un absence d'esprit critique, et même, j'ai envie de dire, de profondeur culturelle et historique qui les empêche finalement de se projeter dans le long terme ou même de mobiliser les expériences passées pour pouvoir mieux affronter le futur. Et là, ça se voit de manière flagrante. Parce que c'est vrai, si vous voulez, sur ce prêt-à-penser, il est vrai sur les logiciels économiques, si je puis dire, sur les doctrines économiques, mais il est vrai en géopolitique, sur la manière d'aborder les États méchants, les États gentils, il est vrai sur les questions de société. Par exemple, la prison, c'est nécessairement l'école de la criminalité et de la radicalisation. Enfin, il y a beaucoup de sujets comme cela, où il y a une forme d'homogénéité qui s'alimente et se reproduit, d'ailleurs, que, disons-le, que les élites viennent de droite ou de gauche, d'une certaine manière. Donc, c'est vrai qu'avec l'ICEP, on a essayé de parer à cela et de former autrement pour justement éviter de se retrouver avec cette espèce d'uniformité idéologique et sociale qui est particulièrement présente dans nos élites actuelles.
Et je reviens justement au sujet qu'on abordait juste avant. Est-ce qu'il faut revoir, selon vous, la répartition des gains dans les entreprises entre les patrons, les actionnaires et les salariés?
Là, si vous voulez, dans l'immédiat, c'est certain qu'on va être amené à se repositionner sur beaucoup de sujets. Il est choquant, on y revient, mais il est choquant, c'est vrai, qu'on puisse se verser des dividendes qui sont absolument considérables, alors même que dans le même temps, on va mettre ses salariés au chômage partiel et donc on va demander que l'argent public puisse financer cela. Le problème, c'est qu'il est toujours délicat à ce que l'État s'initie d'une certaine manière dans la gestion d'une entreprise privée. Ce qui est problématique, c'est qu'il y a une tendance dans le capitalisme français, si je puis dire ça comme ça, à une privatisation des profits et à rendre en revanche les risques publics. Je m'explique, c'est-à-dire que ces sociétés, quand elles gagnent de l'argent, elles en bénéficient et ces gains sont évidemment privés. En revanche, dès qu'il y a la moindre crise ou la moindre difficulté, on se tourne vers l'État, on se tourne vers le public et c'est l'argent public qui vient abonder et qui vient sauter, et qui vient sauver, qui rentre au capital et qui assure la survie de sa société. Voilà, donc il y a un petit problème à un moment donné dans le dispositif. Si l'État est appelé comme ça à sauver de manière conjoncturelle et même relativement régulière un certain nombre de sociétés, il faut en effet qu'il y ait des contreparties. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'un certain nombre de grands groupes, pas tous évidemment, ne sont pas tout à fait exemplaires. Et il est vrai, et on le sait très bien, qu'un certain nombre de grands groupes ont joué justement sur les questions fiscales.
Lesquelles, par exemple? Vous pensez à Total, par exemple?
Fiscalement, entre autres choses. Et on sait aussi, d'ailleurs, et ça tient beaucoup à cela, que les capitales de ces sociétés sont de moins en moins franco-français. Que beaucoup de parts d'actionnariat sont aujourd'hui détenues par des fonds d'investissement étrangers, entre autres choses. Et évidemment, à partir de là, il ne faut pas espérer que ces fonds d'investissement étrangers aient comme première préoccupation le bien-être des salariés français, le maintien de l'activité en France. Là, on est dans un pur rapport de rentabilité. Donc la question de fond, plutôt que de vouloir de manière, j'ai envie de dire, un peu autoritaire, gérer la question de répartition des salaires, elle se pose peut-être sur la composition du capital. Peut-être qu'il y a là une manière de revoir la façon dont l'actionnariat s'est construit pour que ce soit un actionnariat.
Il faut nationaliser, selon vous ?
Non, pas forcément nationaliser, mais en tout cas inciter, alors par différents leviers, peut-être de facilité fiscale, en effet, le fait que cet actionnariat soit prioritairement franco-français, pour qu'évidemment les actionnaires en question n'aient pas seulement à cœur la rentabilité à court terme, mais aussi le maintien de l'emploi sur le territoire français. Donc je pense que ça tient beaucoup à ça, mais c'est des questions en effet de fond qui peuvent être posées à cette occasion, et merci de me l'avoir posée.
La lutte contre l'évasion fiscale, notamment, ça doit devenir une priorité, enfin, selon vous ?
En réalité, alors je ne sais pas, parce qu'en fait le gouvernement a 50 priorités depuis le début, donc c'est un peu compliqué, mais ça a toujours été affiché plus ou moins comme une priorité du gouvernement. D'ailleurs, on a vu s'accélérer depuis quelques années les lois qui permettent d'être de plus en plus dures sur la question de l'évasion fiscale. Donc a priori, il y a quand même une volonté politique de ce point de vue-là. C'est vrai que ce serait intéressant que cette lutte contre l'évasion fiscale, qui est évidemment indispensable, soit faite en parallèle d'une refonte peut-être du système fiscal français, qui, il faut bien le dire, pèse extrêmement lourd sur les sociétés et notamment les ménages. Donc bon, oui, évidemment que c'est une question de fond qu'il faut se poser, mais je pense qu'elle ne peut pas être posée de manière isolée, et elle devrait être l'occasion aussi de revoir complètement ce système qui est une incitation, disons-le, à l'évasion, malheureusement.
Alors, je le disais, vous êtes à la tête de l'ICEB, l'institution sociale, économique, mais aussi politique. Alors, on parlait bien sûr de ces élites sur un plan économique, patron, grand patron. Sur un plan politique, quel profil, selon vous, devrait avoir donc cette nouvelle génération de dirigeants politiques? Quel profil vous pourriez dresser de ce successeur, par exemple, à Emmanuel Macron, comme vous l'espérez, je le pense?
Sur des dirigeants sur des dirigeants politiques, il n'y a pas, entre guillemets, un profil type. Je pense que c'est plutôt une question d'équilibre des profils, si je puis dire. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a souvent des gens qui sont issus exactement des mêmes parcours. Pour caricaturer un peu l'ENA, Sciences Po, haute fonction publique, d'ailleurs, la plupart du temps, inspection des finances.
Mais vous ne craignez pas de faire un Sciences Po bis, là, avec votre institut ?
Non, je veux dire, et là, pour le coup, là où c'est amusant, c'est qu'Emmanuel Macron, qui est présenté, parce qu'il a fait en effet 2 ou 3 ans, je ne sais plus, chez Rothschild, qui est présenté comme un produit du privé, en réalité, est un parfait produit de ce processus, ENA, Sciences Po, voilà. Donc, qu'il y ait éventuellement déjà des gens qui ont fait l'ENA et Sciences Po, c'est une chose, pourquoi pas, acceptable. C'est pas le sujet. Le problème, c'est que c'est la diversification. Ce qui a fait la force pendant longtemps de la vision politique française, notamment sous De Gaulle, c'est qu'il y avait aussi beaucoup d'ingénieurs. Il y avait aussi beaucoup de scientifiques. Et ça manque terriblement. Et il y avait également des gens qui étaient issus du monde privé, mais pas seulement des grands groupes, mais aussi du monde des PME et des ETI. Alors, je ne fantasme pas sur la société civile en politique, ça a aussi ses limites, parce que la politique, c'est vraiment un état d'esprit, une compétence particulière, mais je pense que ça tient beaucoup à cette diversification, surtout.
Marion Maréchal est notre invitée jusqu'à 14h en direct dans Les Incorrectibles. Ne bougez pas, on vient dans un instant pour, déjà la dernière partie de l'émission. À tout de suite.
Sud Radio, Les Incorrectibles. Éric Morillo.
De retour dans Les Incorrectibles avec cette semaine une invitée rare dans les médias et dont la parole est toujours très attendue, notamment sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Marion Maréchal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, vous êtes retirée de la vie politique après l'élection présidentielle de 2017. Vous êtes aujourd'hui directrice générale de l'ICEP, l'Institut de sciences sociales, économiques, mais aussi politique, c'est dire que vous êtes toujours quand même très intéressé par la chose politique. Marion Maréchal, je vais vous lire un commentaire de quelqu'un que je viens de voir là sur Twitter, qui nous dit « Marion, nos espoirs reposent sur vous à l'avenir, il faudra que vous preniez vos responsabilités le moment venu ». C'est un retour en politique que vous envisagez ou pas ?
Moi, j'ai toujours été très claire là-dessus. J'interviens aujourd'hui, vous l'avez dit, en tant que directrice d'une école de sciences politiques qui pose la question de la formation des élites et donc forcément de leurs compétences et des solutions d'avenir, hein, puisqu'on va même développer un centre de recherche et d'analyse. Donc, c'est à ce titre que j'interviens aujourd'hui. Bon, je pense que ce commentateur n'est pas dupe, et vous non plus. Moi, je suis passionnée par la chose politique, je suis surtout passionnée par mon pays. Donc, évidemment, quand il traverse une crise telle que celle-ci, ça ne me laisse pas indifférente. Et une fois de plus, je n'ai pas d'ambition politique à court terme, moyen terme, mais je le répète, je ne renoncerai pas, je pense, définitivement à la politique, mais vous dire quand, comment, aujourd'hui, c'est pas à l'ordre du jour. Mais merci à cet auditeur pour la confiance qu'il me témoigne, en tout cas.
Mais si des circonstances exceptionnelles venaient à se produire, on y est, hein, dans ce cas-là, est-ce que vous pourriez revenir sur cette décision d'avoir quitté la politique et d'être peut-être candidate à une future échéance, notamment présidentielle, hein. Beaucoup de personnes font de l'espoir en vous, donc votre parole est attendue là-dessus.
J'ai l'impression que vous me présentez un peu comme le père de la nation qui va être appelé en cas de crise. Voilà, je dis, moi, je suis pas le général de Gaulle non plus, j'attends pas à ce qu'on m'appelle en dernier recours, pas du tout. Et puis là, c'est impossible de répondre à votre question parce que en accumulant les si, tout est évidemment envisageable. Moi, ce que je crois en revanche sur la question, l'environnement politique, c'est qu'aujourd'hui, rien n'est écrit. Je parle pas pour moi. Mais ce dont je suis convaincue, c'est que cette crise va rebattre les cartes. Elle va accélérer le processus de recomposition. Dans quel sens exactement, je ne saurais pas vous le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas à l'abri de voir maintenant
des nouvelles têtes.
Voilà, exactement. Des mouvements sociaux aussi qui mettent des pressions suffisantes peut-être pour que des gouvernements parfois ne puissent pas se représenter. On ne sait pas. Des acteurs qui émergent de manière assez spectaculaire, puisque maintenant, c'est vrai qu'à l'heure du numérique, on peut se faire une notoriété assez rapidement. Je parlais la fois dernière comme exemple, je pense pas à lui évidemment pour un engagement politique, mais un homme comme Didier Raoult, en quelques semaines, il a des centaines de milliers de personnes qui le suivent, qui l'ont découvert. Donc voilà, on a vu en Italie par exemple, si on devait, même si comparaison n'est pas raison, certes, mais on a vu des partis comme 5 étoiles en quelques mois arriver aux affaires. Donc tout ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que moi, pour moi, rien n'est joué dans un sens ou dans l'autre. Ça me paraît être une évidence. Voilà. Après, si un jour une opportunité se présente et que j'en ai l'envie et que je considère que l'ICEP est suffisamment sur les rails, voilà, pourquoi pas. Mais ça n'est pas du tout à l'ordre du jour.
Donc, vous nous dites aujourd'hui que sur Sud Radio, en effet, que si l'ICEP est sur les rails, que les circonstances exceptionnel puisse vous appeler à ce destin, vous pourriez revenir sur votre décision et peut-être vous réengager en politique.
Je ne parle pas de destin, il n'y a pas question de destin ici. On peut passer 10 minutes là-dessus si vous voulez, je ne suis pas sûr que ça.
Non, mais c'est intéressant parce qu'en effet, vous savez bien, Marion Maréchal, vous savez bien.
C'est une question que si à un moment donné, j'ai envie de me réengager parce que c'est le moment, parce que voilà, parce que moi, si vous voulez, j'ai quitté la politique pour une raison simple, c'est aussi que je voulais me frotter à l'entrepreneuriat. Je suis devenue, vous l'avez rappelé, j'ai été députée très jeune, donc je ne voulais pas avoir comme expérience
la plus jeune d'ailleurs
électorale. Donc à partir de là, je pense ne pas être allée au bout de cette expérience. Donc pour l'instant, moi, j'aborde les choses très sereinement et j'essaye aujourd'hui de contribuer, notamment par votre invitation, à apporter un regard, peut-être des solutions, des alertes. Et si un jour je me réinvestis en politique, j'irai au-delà de ça. Mais pour l'instant, je peux pas vous donner une date, un moment. J'ai pas stratégie à 10 bandes sur 20 ans. J'en suis désolée, mais bon.
Mais vous pensez pas que l'absence, par exemple, d'un appareil pour vous soutenir, d'un appareil politique, aujourd'hui, c'est ce que vous dites. Vous dites qu'on peut réussir très rapidement. On l'avait vu d'ailleurs avec La République en Marche, hein, qui s'est créée finalement assez rapidement. Vous pensez qu'on peut arriver au pouvoir avec l'absence d'un appareil derrière soi?
Je ne sais pas si on peut arriver à l'absence, en l'absence d'un appareil. En tout cas, on peut créer des appareils de manière assez spectaculaire. C'est vrai qu'on l'a vu, je vous le dis, on l'a vu en Italie, on a vu des recompositions politiques qui étaient extrêmement rapides. Et moi, je pense que les circonstances, si vous voulez, vont accélérer cela. Pourquoi ? Je l'ai dit tout à l'heure, parce que l'ancien monde ne va pas se remettre en question. C'est un mensonge de dire ça. Enfin, on l'a vu, la dernière déclaration d'Emmanuel Macron, elle illustre, si vous voulez, parfaitement cela. Il nous parle de souveraineté européenne.
Alors voilà, venons-y pour terminer cette émission à la politique européenne. Oui.
C'est intéressant parce que, si vous voulez, il explique que face à cette crise, il faut donc renforcer l'Union européenne au moment même où on en voit malgré tout les limites. Il parle, ce qui n'est pas anodin, de souveraineté européenne. Or, il ne faut pas avoir lu Jean Bodin pour savoir que la souveraineté est indivisible. Soit elle est européenne, soit elle est française. Donc ça voudrait dire, si l'on va dans sa logique, souveraineté européenne, ça veut dire État européen. État européen, ça veut dire fiscalité européenne, c'est-à-dire impôts levés par l'Europe. Ça veut donc dire budget européen, ne rêvons pas, parce que si vous maîtrisez les recettes, vous maîtrisez les dépenses. Ça voudrait même dire, dans l'absolu, coercition, pouvoir de coercition, d'une certaine manière. Pouvoir, c'est l'attribut de la violence légitime, comme on dit en sciences politiques, si on devait aller au bout du raisonnement. Est-ce qu'aujourd'hui, cet État européen est la solution à la crise que nous vivons ? Je dois le dire, j'ai quelques doutes. Et j'ai quelques doutes parce que, imaginons même que Emmanuel Macron, mais je ne le crois pas, se soit trompé dans ce terme et ait plutôt voulu parler d'autonomie européenne. Idée séduisante de prime abord, je dis pas le contraire, on se dit, ah oui, voilà, l'Europe va être indépendante face à la Chine, face au Japon. Mais ça va poser des questions très concrètes. Comment on construit cette autonomie alimentaire, stratégique, industrielle ? Il y a plusieurs options. Soit on fait des aides d'État, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est interdit. Et je rappelle d'ailleurs que la commissaire européenne à la concurrence a récemment dit qu'elle était opposée aux aides aux entreprises directes touchées par la pandémie. Ça voudrait dire, dans ce cas-là, protection contre la concurrence étrangère. Or, l'Europe, avec le soutien d'ailleurs d'Emmanuel Macron, vient de signer un traité, il y a 3 semaines, hein, donc en pleine crise, vient de signer un traité de libre-échange avec le Vietnam. La Commission européenne a d'ailleurs rappelé que les règles de libre-échange étaient suspendues jusqu'à l'automne, mais qu'elles reprendraient à partir de l'automne, comme d'ailleurs la suspension du pacte de stabilité était temporaire. Donc, si vous voulez, moi je veux bien qu'on parle d'autonomie européenne, mais il va falloir s'expliquer comment. Est-ce que ce sera par la préférence communautaire ? Ça veut dire qu'entre les pays, on va prioritairement acheter européen. Bah, on est encore loin du compte, pardon, parce que déjà, un, ça n'est pas organisé au niveau européen, mais deux, un exemple tout récent, de quelques jours, l'Allemagne, qui vient de renouveler sa flotte d'avions de combat, a abandonné, enfin du moins a remplacé son avion européen qui était le Tornado de mémoire, qui était un avion anglais, italien et allemand, pour un avion de chasse américain, en tout cas un avion de combat américain. Donc on voit bien que ça pose beaucoup de questions, à savoir également où iront ces industries si elles sont relocalisées en Europe, parce que ça ne veut pas dire nécessairement qu'elles seront relocalisées en France. Donc si vous voulez, moi je veux bien qu'Emmanuel Macron nous parle de souveraineté ou à défaut d'autonomie européenne, mais ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il remette en cause tout ce dont je viens de vous parler. Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que la crise révèle une chose de manière flagrante, c'est qu'il y a aujourd'hui 2 États au sein de l'Union européenne. Il y a les États qui s'en sortent relativement bien, avec des budgets relativement équilibrés, je pense notamment à
Mais attendez, pour être sûr de bien vous comprendre, Marion Maréchal, vous êtes pour quitter l'Union européenne ?
Non, je finis juste le raisonnement pour vous dire que si Emmanuel Macron nous parle de souveraineté européenne, il faut qu'il en assume les conséquences et il faut qu'il aille au bout du raisonnement. Et le problème aujourd'hui, c'est que la France, malheureusement, fait partie des pays demandeurs de cette crise, fait partie des pays en difficulté. Donc imaginez que le président français puisse infléchir la politique de l'Union européenne dans le sens de ce dont je viens de vous parler, à savoir la protection, par exemple, des marchés de la concurrence déloyale. Ça m'apparaît parfaitement utopique parce que la France a un problème de crédibilité et c'est elle qui a besoin en premier lieu de l'aide de l'Union européenne. Donc c'est vrai que ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est que dire aujourd'hui aux Français... Alors même qu'on voit bien que la question est d'abord celle de l'indépendance de l'État-nation et de la diversité de son économie, elle a expliqué aux Français qu'en fait on va renforcer l'État européen, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne solution. Je vous réponds sur la question que vous venez de me poser, je ne suis pas pour que la France sorte de l'Union européenne. En revanche, je considère que la France, pour avancer efficacement au sein de l'Union européenne, doit arrêter de s'enfermer dans ce couple franco-allemand, qui selon moi
est fracturé.
Voilà, est un couple qui ne fonctionne pas pour des raisons qui sont très simples, puisque l'Allemagne et la France n'ont pas les mêmes traditions économiques, les mêmes traditions budgétaires, les mêmes visions, les mêmes intérêts, et qu'elle doit peut-être reconsidérer ses alliances au sein de l'Union européenne pour justement engager un rapport de force. Si ce rapport de force n'aboutit pas, il faut tirer toutes les conclusions. Mais le problème, c'est que ce rapport de force, il n'a même pas été véritablement engagé. Parce que même sur les débats qui nous réunissent aujourd'hui, sur la question des eurobonds, la réalité, c'est que la France, chaque fois, cède, recule, minimise, négocie et ne parvient pas à obtenir ce qu'elle souhaite. Donc pour vous répondre sur la question du monde d'après, on voit bien que bien loin de remettre en cause finalement leur certitude ou leur politique, il est vraisemblable que ce gouvernement accélérera au contraire les certitudes qui sont les leurs, accéléreront les politiques qui sont les leurs et fassent accepter aux Français des choses parfaitement inacceptables comme le trekking, donc c'est des sujets sur lesquels on réfléchit également au sein de l'ICEP. Et je pense que c'est utile d'y apporter des réponses, et c'est pour ça que je pense être utile aujourd'hui à l'ICEP, peut-être davantage encore que dans le monde politique.
Vous pensez que cette crise, elle est révélateur des limites de la mondialisation, en quelque sorte ?
Alors, je ne parlerai pas de mondialisation en tant que telle, parce que la mondialisation, l'accélération des flux, des échanges, le fait qu'il y ait des avions, des trains, d'une certaine manière, c'est un état de fait. J'incriminerais plutôt, si je puis dire, l'idéologie de la globalisation. Ça veut dire que le fait que, dans cette mondialisation, l'idéologie de nos gouvernants veuille qu'on refuse toute régulation. Régulation du mouvement des biens, des hommes et des capitaux.
Par exemple, vous êtes d'accord avec Donald Trump qu'il faudrait, par exemple, suspendre les nouveaux visas pour privilégier d'abord les travailleurs français ? Il faut suspendre l'immigration ?
En tout cas, oui, évidemment que je ne suis pas une adepte, je pense que c'est une surprise pour personne, de l'ouverture totale et dérégulée des frontières, qu'il s'agisse d'ailleurs sur les biens, les capitaux ou sur les personnes. Qu'on puisse aujourd'hui continuer d'imaginer qu'accueillir des centaines de milliers de nouveaux immigrés par an dans la situation dans laquelle nous sommes, alors que nous savons parfaitement que cette immigration est une immigration à bas niveau socio-professionnel qui, la plupart du temps, vient grossir les rangs du chômage, il est évident que ça pose une question de fond, au-delà même d'ailleurs de la cohésion sociale ou de la question de la sécurité liée au terrorisme. Donc évidemment, moi j'incrimine l'idéologie de la globalisation plutôt que la mondialisation en tant que telle. Enfin, je veux dire, la peste noire au XIVe siècle ou la grippe espagnole s'est malgré tout propagée. Le mouvement, c'est l'histoire de l'humanité. Le tout est d'être armé dans cette mondialisation. Et pour qu'une nation soit armée dans la mondialisation, eh bien, il faut qu'elle accepte de réguler ce qui entre, ce qui sort, de protéger des secteurs, de diversifier son économie, de faire en sorte que des secteurs stratégiques comme l'agriculture, comme la défense, comme l'éducation, comme l'industrie soient préservés et ne soient pas dilapidés pour être délocalisés dans des pays tiers. C'est tout ça, si vous voulez, qu'il faut aujourd'hui, toutes les leçons qu'il faut tirer en fait de cette crise.
Mais bon, c'est pas que c'est contradictoire de dire que il faut une souveraineté nationale et puis tout en restant malgré tout au sein de cette Union européenne. Là-dessus, on peut pas avoir comprendre.
Non, mais tout dépend de ce qu'on veut faire de l'Union européenne. Une fois de plus, l'idée européenne d'une coopération d'États souverains n'a rien d'absurde. Que l'on puisse mettre en commun.
Vous êtes pour une Europe des nations, c'est ça ?
Que l'on puisse se coordonner sur des intérêts que nous aurions en commun, que nous puissions mettre de l'argent au pot commun pour des projets dont nous avons le bénéfice également commun. Par exemple, sur des projets de souveraineté numérique, sur la gestion des frontières extérieures notamment. Mais tout ça pourrait relever de la subsidiarité, c'est-à-dire que nous ne sommes pas obligés de déléguer totalement une compétence pour pouvoir être efficace. Moi, je crois qu'au contraire, cette crise révèle que ce sont d'abord les États-nations qui sont à la fois les plus légitimes, les plus réactifs et les plus équipés. Rappelons aussi, malgré tout, pour être tout à fait honnête, que la question de la santé n'est pas une compétence de l'Union européenne. Mais on voit bien qu'il y a quand même des fractures de fond, parce qu'on parle de la crise de l'Union européenne, mais l'Union européenne est tout le temps en crise. Elle était en crise au moment de la crise de 2008, elle a été en crise au moment des référendums, et notamment en 2005, qui ont dit non, elle a été en crise au moment de la crise des migrants, elle a été en crise au moment du Brexit. C'est un système qui structurellement est en crise. Pourquoi ? Parce qu'avec l'élargissement à 27, il est évident que nous ne parvenons pas à porter une vision commune, et encore moins l'idée de l'Europe puissance. Moi, je suis séduite par cette idée de l'Europe puissance. De dire voilà, on a la volonté d'organiser la défense de ce continent européen face justement à la Chine, aux États-Unis, donc assurer sa prospérité, son indépendance, son autonomie. Mais ça n'est pas la vision d'une grande partie des pays européens. Ça n'est pas la vision des pays du Nord, ça n'est pas la vision des pays de l'Est, ça n'est même pas d'ailleurs la vision de l'Allemagne. Donc à un moment donné, il va bien falloir solder ces désaccords et en tirer des conclusions d'une manière ou d'une autre. Ou en tout cas, ça commence déjà par taper du poing sur la table et que la France puisse enfin assumer son leadership au sein de l'Europe et non pas être le suiveur de, malheureusement, de l'Allemagne, comme semble aujourd'hui se résigner à le faire malheureusement ce gouvernement.
Marion Maréchal, plus qu'une minute, le mot de la fin. Si à l'issue, comme on l'espère, de cette pandémie, les dirigeants sont renouvelés, est-ce que vous êtes optimiste, pessimiste sur l'avenir de notre pays ?
Moi, je suis optimiste hein, parce que je crois beaucoup que notre tissu social va nous sauver, en fait. On parle toujours des choses qui ne vont pas en France, hein, mais il faut quand même rappeler que ramener le PIB, c'est-à-dire la richesse française ramenée à chaque actif en France, c'est à peu près 100 000 euros de création de richesse par an, par actif, si on devait diviser la population par deux. Ce qui veut dire que aujourd'hui, les Français, un Français est 4 fois plus productif qu'un Chinois. Voilà. Donc, malgré toutes les difficultés qui sont les nôtres, quand un Français est 4 fois plus productif qu'un Chinois, on peut se dire qu'on sera probablement sauvé par cette France des gilets jaunes, cette France des PME, cette France des ETI. Donc, je reste quand même très optimiste.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Marion Maréchal, d'avoir accepté notre invitation. L'émission, évidemment, est à revoir en replay sur YouTube dans quelques instants. Merci à Micha Agar et à Quentin à la réalisation, à Nicolas Philippi au digital, ainsi qu'à Céline Delabaume qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, je n'arrêterai jamais de le dire, pour vous protéger, protéger les autres et aider les soignants. Restez chez vous. Très bonne semaine à tous à l'écoute de Sud Radio.